Il y a plein de fois où j'ai fait des modifs et j'ai lancé les tests juste avant de déployer et ça plantait quoi. Et j'étais sûr de mon coup au moment où je lançais les tests.
Bienvenue sur le podcast Artisan Développeur, l'émission pour les développeurs passionnés qui combinent technique, agilité et développement personnel dans le but de nourrir l'excellence. J'ai toujours aimé le travail de Camille. Je le trouve malin dans son approche, pragmatique dans son évaluation et son jugement. Pour tout dire, je suis à la fois admiratif et un petit peu jaloux de ce qu'il a fait sur Human Coders. Admiratif parce que je trouve que c'est vraiment une belle marque. Dans Human Coders, il y a Human et Coders. Il suffit de regarder les témoignages de ses clients pour comprendre que qu'il kiffe quoi. Et un petit peu jaloux parce que j'avais pas mal échangé avec lui au moment où je lisais La Semaine des 4 heures. Et lui, il était arrivé avec Human Coders à mettre ça en œuvre et moi, pas tout à fait encore à ce moment-là. D'ailleurs, c'est rigolo parce que on va reparler de La Semaine des 4 heures dans l'interview. Alors du coup, quand il lance un nouveau business, je me dis, c'est trop une belle occasion. Surtout que là, il va coder lui-même. Donc l'occasion était trop belle d'aller voir qu'est-ce qu'on peut prendre comme idée, de quoi est-ce qu'on peut s'inspirer. Voici l'interview de Camille Roux de chez Merci Cookie. Aujourd'hui, on est là pour parler de Merci Cookie. Est-ce que tu peux nous dire en deux mots ce que c'est Merci Cookie ?
Merci Cookie, c'est un service web pour facilement faire des cadeaux quand on est une entreprise à ses clients, à ses partenaires, à ses salariés qu'on a monté en l'hiver dernier.
Et d'ailleurs, justement, sur ce service, tu as publié un article sur Medium et c'est un peu ce qui a déclenché cet échange. Moi, il y a un premier truc que j'ai envie de te demander, c'est je vois que le timing est assez serré, puisque si j'ai bien vu, en mi-septembre, tu commences à faire ton premier commit avec une première vente le 26 novembre. Ça fait quoi ? Ça fait 2 mois et des brouettes. Comment est-ce que tu as vécu cette contrainte assez forte de timing et quels étaient les enjeux ?
Alors, on a commencé à réfléchir sérieusement à l'idée avec Sabine, mon associée, durant l'été. On a fait quelques interviews, mais c'était l'idée de monter la boîte n'était pas encore bien tranchée. En septembre, on a commencé à s'activer un petit peu, donc on a fait des interviews un peu plus, de manière un peu plus formelle et un peu plus active. Effectivement, en fin septembre, j'ai commencé à mettre en place un peu la stack, sachant qu'on n'avait pas encore fini les interviews, mais c'était histoire de prendre un peu d'avance. C'était, je pense, fin septembre, on a commencé à se dire, ça serait vachement bien qu'on soit prêt pour fin novembre, début décembre. Parce qu'en fait, ça va être les fins d'année et c'est une période vraiment très active dans le milieu du cadeau d'entreprise. Et c'était vraiment une belle opportunité d'être prêt à cette période-là. Donc du coup, la course contre la montre s'est lancée fin septembre.
Ok. Et en termes d'émotion, comment tu vis les choses à ce moment-là, ton premier commit ?
Les premiers commits sont pas très fun parce que c'est de la mise en place de la stack. Moi, j'étais parti sur du Rails, je me doutais que j'avais un back-office, donc installation de quelques gemmes, installation de pousser le code sur GitHub, de mettre de l'intégration continue, de mettre un peu la stack en place pour exécuter les tests, pour le back-office, pour les pages statiques, pour l'authentification, pour les formulaires, pour envoyer des mails. Mise en place de Bootstrap parce que je suis pas un très bon intégrateur et ça me sauve la mise. Je serais pas tellement capable de faire tout le CSS moi-même, donc ça m'aidait beaucoup. Mise en place de tout ça. Et puis au fur et à mesure où on commençait à avoir des certitudes sur les interviews, on a pu commencer ensemble à définir un backlog. Et il y a des features où ça devenait une évidence qu'il fallait les faire. Donc j'ai commencé le développement. Le début des grandes fonctionnalités alors qu'on n'avait pas tout à fait fini les interviews.
Ce que je trouve intéressant dans ta manière de parler, c'est que tu cases les tests comme une étape normale quoi. Est-ce que tu t'es posé la question à un moment donné d'en faire, de pas en faire ?
C'était une grande question. L'appli est plutôt simple. Hein. On est sur une appli où on peut se loguer. On remplit un formulaire pour passer commande, on voit la liste de ses commandes, il y a un système de paiement, il y a un back-office pour nous et pour la personne qui prépare les cookies. Et on a à peu près résumé l'application. Donc, elle est assez simple. Il y a deux modèles en base de données, c'est tout. Je me posais la question, est-ce que c'est vraiment nécessaire? Je me suis dit, si l'application est simple, les tests le seront aussi. Donc, je vais pas perdre beaucoup de temps. Et en fait, je pense que c'était indispensable. C'est que là, il y avait une course contre la montre. Donc il fallait que ça aille vite, il fallait pas que j'ai de bugs, il fallait pas que c'était compliqué en décembre parce que le moindre temps perdu avait un effet en cascade à chaque fois en fait. Dès qu'on avait des problèmes de livraison, de n'importe quoi, on a eu plein de problèmes en décembre et à chaque fois ça retardait. Et puis chaque jour qu'on perdait, c'était des gens qu'on pouvait pas livrer avant les fêtes quoi. Donc il fallait que ça marche. Et puis moi, il fallait que j'ai la tête libre parce que je suis pas que développeur dans cette histoire. On est deux cofondateurs, c'est tout. Donc il y avait plein d'autres choses à faire. Il fallait monter la boîte, il fallait définir du marketing, réfléchir à la stratégie, interviewer des gens, résoudre des centaines de problèmes qu'on a eu sur la route. Et il fallait pas que je sois inquiet le vendredi soir en partant le week-end de me dire que l'appli pouvait planter à tout moment. Donc c'était très confortable et je regrette pas une seconde d'avoir passé un peu de temps à faire ces tests. Et voilà, l'application a jamais planté depuis le début. On n'a pas perdu une vente à cause de l'appli. Il y a eu aucun bug critique. Et c'est grâce au test. Sinon, j'aurais planté l'appli 15 fois. Ouais.
Tu fais une corrélation entre les deux pour toi. Le fait que l'application est.
Il y a plein de fois où j'ai fait des modifs et j'ai lancé les tests justement de déployer et ça plantait quoi. Et j'étais sûr de mon coup au moment où je lançais les tests. Donc clairement ça est parti en prod avec des pages qui marchaient pas ou ouais c'est une évidence parce que même sur une appli aussi simple que ça, ben en fait à force d'y bosser elle est pas aussi simple. Il y a des cas particuliers, il y a plein de choses en fait. Ça me fascine à chaque fois d'ailleurs comment une idée simple peut devenir complexe dès qu'on se concentre dessus. Et tout était complexe d'ailleurs, pas que le code, mais on a eu des casse-têtes en termes de packaging, en termes d'envoi, en termes de voilà sur la partie dev, il y a eu des problématiques qui nous prennent la tête, la validation des adresses par exemple, le fait de passer de commander les étiquettes à la poste, de suivre les colis, il y a plein de problématiques et ouais ça fait un code qui est plus si simple que ça et on a vite des effets de bord, on a vite des choses qu'on peut pas tester à la main, enfin on peut pas faire un tour de l'appli simplement avant à chaque fois parce qu'il y a pour tester il faut se déplacer dans le temps, on peut pas facilement le tester à la main, il faut changer d'utilisateur, Et du coup, les tests sont très vite devenus indispensables.
J'ai cru voir que c'était des RSpec ou du Minitest que tu utilisais?
C'est RSpec.
RSpec. Et c'est ta stratégie de test, elle est plutôt unitaire, fonctionnelle, les deux, mon capitaine?
C'était très principalement des tests d'intégration avec les tests système qui sont dans Rails 5. Quelques tests niveau des modèles pour la partie critique, notamment sur les commandes. Donc en gros, j'ai deux entités, j'ai des utilisateurs qui peuvent créer des orders, qui sont des commandes. Chaque boîte de cookies est une commande à part entière. Ces commandes elles sont un peu critiques parce que c'est celle qui déclenche le paiement en fonction de l'état dans lequel elle est. C'est là où on stocke le statut de l'envoi. Donc il fallait pas faire de bêtises avec ça, ouais. Donc là, j'ai testé en plus le modèle histoire de bien vérifier la machine à état et que un utilisateur puisse pas être facturé deux fois sur une commande, que s'il a pas mis ses infos de paiement, ça part pas en livraison, voilà. Donc ça c'était critique. Sinon c'était principalement des tests d'intégration.
À un moment donné, tu parles de déploiement continu où tu déploies en permanence sur staging dès que les tests passent.
Ouais.
Et puis tu dis, ok, j'acquire tellement de confiance dans les tests que j'envisage de faire la même chose pour la prod. Alors, où est-ce que tu en es par rapport à cette idée-là? Est-ce que c'est le cas? Est-ce que maintenant ça pousse tout seul en prod? Et puis deuxièmement, quel a été l'apport de ce déploiement continu sur staging dans la collaboration, notamment avec Sabine, si j'ai bien compris, qui faisait le rôle de product owner.
Alors, ça ne déploie pas encore en prod, mais ça pourrait tout à fait l'être. Là, depuis janvier, je code beaucoup moins. Parce que c'était moins le sujet, il fallait gérer le quotidien. On a eu beaucoup de commandes en décembre, janvier, et le fait d'avancer sur le code n'était pas prioritaire. On pourra y revenir après, mais on va s'y remettre bientôt, parce qu'il y a d'autres projets pour faire des montes le reste de l'année. Mais voilà, donc c'était assez cool niveau dev ces deux derniers mois. Mais ça pourrait clairement être fait maintenant. Enfin, la couverture de code est assez importante pour que je me retrouve pas avec des bugs en prod sans faire exprès a priori. J'ai une nouvelle fonctionnalité, je la teste aussi. Alors, il y a toujours des failles, mais c'est bon, vu ce qui s'est passé, on pourrait très bien déployer en prod. Sur la collaboration avec Sabine, c'était très pertinent parce que elle pouvait aussi toucher au code. Elle est pas développeuse, mais de temps en temps, elle pouvait toucher à des parties de texte ou des petits trucs comme ça. Et du coup, c'était très confortable pour elle et pour moi d'être sûr que, ok, les grandes fonctionnalités sont pas cassées quand on déploie. C'est très agréable d'être sûr. Ok, je sais que chaque fois que je déploie, les gens peuvent toujours passer les commandes, le paiement marche toujours, ils peuvent toujours voir leurs commandes. Notre maître cookie peut regarder les commandes et les valider, les traiter. Nous, on voit le back office. Voilà, tout ça, à chaque fois que je déploie, ça, je sais que ça marche et c'est extrêmement confortable. Donc le périmètre où les bugs peuvent apparaître est quand même très restreint. Donc non, c'était très cool de travailler comme ça et ça va continuer parce que ça a clairement montré c'est pas vrai.
J'avais une autre question aussi toujours. Ouais. Autour du changement, à un moment donné, tu dis on a été parti sur une idée et puis on a d'un coup le workflow change à la dernière minute avec un impact qui a l'air assez important. Aide-nous à comprendre, c'est quoi l'impact à ce moment-là? Comment tu gères ce moment de transition qui est sur un sujet qui est un peu sensible quand même, le tunnel de vente juste à la dernière minute?
Ouais. En fait, l'idée de base de Merci Cookie, c'est de faire un système où les gens peuvent passer les commandes par API et des trucs qui se brancheraient sur l'API. Par exemple, un plugin qui s'intégrerait à un CRM. Et sur les fiches clients, il y a un bouton cookie, on clique dessus et ça passe commande. Et avec les réflexions et les interviews qu'on a faites en septembre, on s'est aperçu que les gens étaient prêts à passer des commandes, mais de manière plutôt traditionnelle, pour les fêtes de fin d'année. Et on s'est dit, c'est une super occasion, parce que c'est techniquement plus simple, j'ai pas l'API à développer, j'ai pas les plugins, j'ai pas tout un tas d'intégrations à faire. Et a priori, je jette rien de ce que je fais techniquement, quelques petits détails près, dont celui-là. Et donc l'idée de base à l'origine avec l'API, c'est que pour moi, il fallait qu'on s'inscrive, qu'on mette la carte bleue, qu'on setup vraiment le compte, et après on peut s'en servir. Le problème, c'est que en partant sur un système plus classique, on se retrouvait à ressembler plutôt à un site e-commerce, et les gens n'ont pas du tout l'habitude de mettre la carte bleue avant de passer commande. C'est qu'on choisit son produit, on le configure, en l'occurrence on met l'adresse, etc. Et à la toute fin, on paye. Et ça, on s'en est aperçu que c'était bloquant, mais quelques jours, je pense, avant la sortie de la bêta. Donc c'était un bon stress, parce que ça changeait quand même pas mal de process, ça changeait l'ordre de toute l'inscription. Il fallait qu'on puisse faire des choses non connectées, alors qu'avant il fallait être connecté pour tout, par exemple mettre l'adresse d'expédition. Donc c'était assez stressant, et les tests ont bien aidé encore une fois là-dessus, parce que les tests, il suffisait moi que je change à peu près l'ordre des lignes de code, et je testais la nouvelle version, et une fois que ça validait, c'était bon quoi. Donc il y a eu pas mal de taf niveau dev, mais une fois que les tests passaient, j'étais à peu près sûr de mon coup. Et encore une fois, ça m'a bien sauvé, parce que ouais, ça a pas planté, ça marchait bien. Et on avait des retours très négatifs sur ce processus d'inscription. Même des gens qui nous connaissaient disaient non, mais enfin moi je paye pas là-dessus. J'ai même pas vu à quoi ressemble votre site, etc. Et heureusement qu'on l'a fait. Ça a beaucoup changé.
On est le 26 novembre et tu reçois la première commande. Où est-ce que tu es? Qu'est-ce que tu fais à ce moment-là? Et qu'est-ce que tu ressens quand tu vois le premier gars qui met sa première vraie carte bleue dans la machine?
Alors, je suis avec Sabine, mais on est en train de manger avec des potes à nous. Et on s'aperçoit qu'on a reçu un mail comme quoi une commande est passée. Donc, on est tout content parce que ça marche. On a beau faire des tests, etc. Il y a quand même des paramètres un peu environnementaux qu'on maîtrisait pas sur l'environnement de prod. Enfin, c'était des... On passait plus par l'environnement de test de Stripe, mais par l'environnement de prod. Enfin, bon, il pouvait rester. Il y avait quand même des cas particuliers à l'environnement de prod, du SSL ou des trucs comme ça qui passent sur staging, par exemple. Et mais du coup, c'est cool, ça marche. C'est une pote à nous qui passe commande, mais elle nous en avait pas parlé avant, donc ça valide plein de choses en fait. Donc, on est hyper content. Et c'est cool que ça marche du premier coup, qu'il n'y ait pas un fail comme ça. Donc, très content. Et c'était vraiment une super bonne nouvelle. Et ça a annoncé le début d'un paquet de commandes qu'on a eu. On s'attendait à... Avec Sabine, on s'était dit, OK, c'est cool si on arrive à dépasser les 100 commandes pendant les fêtes. Et on a approché les 500. Donc, on était...
Ah ouais, quand même.
C'était vraiment un très bon démarrage. Ouais.
Ça fait combien de cookies? Parce que je sais que tu as des tailles de boîtes différentes. Donc, en tout, vous avez, Maître Cookie a fabriqué combien de cookies en décembre?
Alors, en décembre et plus janvier, parce que janvier est aussi une période très active dans le
cadre de l'entreprise. Et oui, de bonne année.
Donc, en décembre plus janvier, donc sachant, plus janvier, on en a fait plus de 6200.
Ouf, 6200 cookies, tard. Pas mal.
Ouais, ouais. C'était un très très bon début, ouais. On s'attendait pas, d'où le fait que je parle tout à l'heure quand j'avais mis le dev un peu de côté, c'est qu'on avait d'autres problématiques de logistique, de plein de trucs du quotidien qui se sont mis là. Donc c'était pas trop le sujet d'avancer sur les fonctionnalités à ce moment-là. Et puis ça marchait en fait. Enfin, le problème était pas du tout sur le dev à ce moment-là. Donc il fallait qu'on se concentre sur le reste. Ouais. On a eu des problématiques de logistique, on a décidé d'être très ouvert sur notre aventure, d'en décrire à peu près tous les gros trucs qui nous sont arrivés, on a balancé tous nos chiffres. On est très transparent sur notre aventure, tout ça, on tient un médium là-dessus. Donc il fallait créer des articles, il fallait qu'on communique, il fallait qu'on contacte des gens, qu'on contacte des clients. Qu'on vérifie que tout soit bien passé. On a eu tout un tas de problématiques logistiques qu'il fallait gérer. Quand je développais, il y avait des choses à faire. Ouais. Donc il faut gérer la priorité d'un point de vue général. C'est pas juste les tâches à faire en développement, c'est aussi ok, est-ce que là c'est plus prio que je dev ou que j'écrive un article. Donc il y avait tout ça à gérer. Ouais. Donc ça fluctue en fonction de notre stratégie, des envies et du plan un peu pour la suite. Ouais.
Et d'ailleurs, si quelqu'un a envie d'en savoir plus sur Merci Cookies, soit pour commander une boîte de cookies, soit pour venir lire ces fameux articles, c'est quoi les URL?
Le plus simple, c'est d'aller sur mercycookies.com et si les articles vous intéressent, il y a un lien en bas du site pour aller sur le blog. Et on a dû publier une quinzaine d'articles, je pense, sur 2-3 mois. Sur la construction des MVP, sur les interviews, sur un tout premier, au tout début de la boîte où on expliquait un peu la vision de départ et l'état d'esprit dans lequel on montait la boîte, sur décembre où on a enchaîné les problématiques de logistique, sur un bilan après 2 mois d'activité où on a détaillé toutes les stats, donc on a fait pas mal d'articles comme ça. C'était très intéressant parce que nous, ça nous permettait aussi de faire le point. Ça évite d'avoir trop la tête dans le guidon. On savait que si on partait sur une stratégie absurde et qu'on l'écrivait, on aurait des gens qui nous diraient que c'est une connerie. Et c'était un moyen de se protéger aussi de faire n'importe quoi. C'est très enrichissant parce que ça lançait des discussions. Donc des fois, on affirmait quelque chose et puis les gens disaient « Vous êtes sûr que c'est une bonne idée ?» Et ça nous faisait réfléchir. Et enfin, c'était une façon aussi de partager simplement l'expérience. On trouvait que c'était assez intéressant. La démarche est assez atypique. Dès le début, on a dit qu'on ne bosserait pas plein temps dessus, qu'on lèverait pas de fonds, qu'on n'irait pas chercher des prêts. Que chaque fois qu'on n'a pas envie d'y bosser, on n'y bosse pas dessus, on bosse d'où on veut. Et c'était des contraintes qu'on a mis dès le départ. Donc ça fait une boîte avec des bases assez atypiques. Et c'était intéressant, je trouvais, de communiquer sur où ça va, parce que même nous, on savait pas, on savait pas où ça allait, on sait toujours pas où ça va pour la suite. Et c'était rigolo de faire le bilan là-dessus. Ouais. Donc voilà, tout ça, c'est disponible sur mercycookie.com.
En tout cas, c'est hyper riche de retours d'expérience et je te remercie de partager ça. C'est quoi la durée de vie d'un cookie, d'une boîte de cookies, tu crois?
Alors, la durée de vie théorique, elle est de quelques semaines. Dans la pratique, elle est de quelques heures souvent. Donc, on a reçu beaucoup de photos de personnes qui recevaient la boîte et qui, quelques minutes ou quelques heures après, nous renvoyaient à nouveau une photo avec la boîte vide, juste avec quelques miettes au fond. Et bah, c'était un très joli compliment pour notre fabricant de cookies qui fait des cookies absolument magnifiques.
Bon, moi,
ça fait super plaisir, mais tu les as testés.
Ouais, j'allais dire, j'en ai reçu deux boîtes et effectivement, j'ai pu constater que la durée de vie était de la demi-journée à peu près, voilà.
C'est ça. Et puis pour les, donc ça c'était les destinataires. Et puis les clients directs sont a priori ravis. On a eu des, c'était un cadeau un peu original qui change du chocolat ou des bouteilles de vin qui passent pas toujours. Et donc ça faisait un cadeau un peu plus décontracté, et c'est pas des cookies classiques, c'est quand même des cookies vachement travaillés et des parfums assez riches. Donc on est un peu entre la pâtisserie, le biscuit et le cookie. Et ouais, non, ça fait un beau cadeau et en plus facile à envoyer parce qu'on a essayé de faire un service qui facilite au max l'envoi de cadeau. Donc nos clients directs étaient très contents. On a eu un beau taux de transformation sur les gens qui recevaient une boîte et qui ont passé commande après. On est encore très jeune pour mesurer ce pourcentage-là, mais ça augmente, donc c'est une belle confirmation pour nous aussi. C'est que je pense qu'à terme, la meilleure façon de nous faire connaître, c'est que des gens reçoivent notre boîte et qui la testent et qu'ils aient envie de la commander après. Ce qui est super, en fait, ça se fait par bouche à oreille comme ça.
Ah, je crois que ça, c'est assez évident. Hein. D'ailleurs, je crois que la première réaction que j'ai eue après avoir fini le dernier cookie et de m'être dit zut, j'ai plus de cookies, c'est d'avoir envie d'en racheter une boîte pour moi. C'est pour ça que je t'avais demandé, est-ce que c'est possible d'acheter des cookies pour... Est-ce qu'on peut s'offrir des cookies à soi-même?
Mais évidemment. Évidemment.
Et puis,
tu pourras l'automatiser. C'est ça
qui
est incroyable.
Ah ouais,
Et oui, parce que
ouais, ça c'est dangereux.
Là, ça va être le taf des prochains jours. C'est que donc là, les ventes se sont énormément calmées depuis début février, parce qu'on est sorti de la zone des fêtes de fin d'année, de début d'année. Mais on le savait à l'avance, et du coup, on va repartir sur l'idée qu'on avait au départ, donc d'automatiser les ventes. Plusieurs pistes, c'est donc piste d'API où des gens peuvent coder ce qu'ils veulent et on peut facilement passer les commandes par API. Ça peut servir par exemple si t'as un service SaaS et tous les gens qui prennent l'abonnement premium et qui le renouvellent sur un an, tu leur envoies automatiquement une boîte pour les remercier. Ou tu peux faire un script qui s'exécute avec un cron tous les mois pour t'envoyer des cookies chez toi par exemple si tu veux. Ou faire une logiciel en ligne de commande pour commander des cookies quand t'en as envie, ou voilà ce que tu veux. Et après, je pense qu'on va développer nous-mêmes quelques connecteurs suite à des demandes qu'on a eues, mais ça, on est en train de valider avec les interviews. Deux connecteurs, a priori, ont noté un intérêt chez les gens à qui on a parlé. C'était un connecteur Zapier. Bon, en fait, du coup, on va pouvoir automatiser plein de tâches. Dès qu'il se passe quelque chose avec une action avec un trigger qui dispose sur Zapier, alors j'envoie des cookies avec telle adresse et tel mot dedans. Et même chose avec des extensions de CRM ou peut-être une extension Chrome qui va ajouter carrément des trucs dans le CRM en HTML pour ajouter un bouton cookie sur les fiches clients. Voilà, c'est ça être le scope de notre travail dans les prochains mois. Il y a une demande là-dessus, il y a des équipes de commerciaux qui attendent ça pour récompenser des clients, soit qui ont fait des bonnes actions, soit pour s'excuser d'un retard ou autre. Et ouais, donc on va bosser là-dessus. Ouais.
Je pense que vous allez vous éclater avec ça.
Ça va être très sympa, techniquement c'est très cool. J'ai pas encore bien bien réfléchi à la stack pour les API, mais c'est quelque chose qui est vachement intéressant, très tech. Donc ça va être très cool. Je risque de partir avec du Swagger. C'est la première fois que je m'en sers, donc ça va être sympa à tester. L'écosystème a l'air très sympa. Ça permet de décrire l'API avec un format défini et ensuite de pouvoir générer carrément des tests pour voir si l'API est conforme à cette description et même de générer des docs directement à partir de cette description et même éventuellement de générer des clients. On peut directement générer des clients Ruby, enfin dans je sais pas combien de langages, il y en a des dizaines. Et ouais, l'écosystème est très sympa, donc ça me donne bien envie de tester pour voir ce que ça donne. Ouais.
Est-ce que tu as un dernier mot de la fin?
Un non, truc que comme... c'est l'expert. Enfin, pardon.
Non, je vais dire un truc intelligent, mais vas-y.
Ah, tout de suite. Ok, ça limite vachement.
Et après, je me suis dit non, pourquoi mettre un critère comme ça? Non, on s'en fout.
Non, mais c'était intéressant parce que j'ai un passif de développeur où j'ai travaillé pour des clients. J'ai fait plus tard des applis pour Human Coders. On se retrouvait un peu dans cette problématique-là de travailler pour nous. Et là, je travaillais pour nous, mais dans un temps très serré avec d'autres choses à faire. Et du coup, c'était vachement intéressant de faire du dev, mais efficace. C'est qu'il fallait que ça aille vite et que ça marche. Et sans pour autant créer de la dette, parce que je suis le seul dev, il fallait que ça roule, que ce soit pas une difficulté absolue de reprendre le code après. Donc le code est propre, j'ai pas fait de raccourcis, j'ai pris le temps à chaque fois que j'avais des problèmes. Et c'était vraiment une super expérience d'avoir à gérer ce compromis-là de... Ok, c'est quoi vraiment la solution la plus simple que je peux trouver à ça, et j'étais, enfin vu qu'on était que deux, j'étais acteur sur le backlog, donc je pouvais très bien dire, écoute, ça je le sens pas, peut-être qu'il pense à prendre trop de temps, mais des fois des trucs bêtes, genre faire de l'upload de fichiers, la première fois qu'on fait de l'upload de fichiers en Rails, ça prend un peu de temps, il faut configurer sur Amazon S3, installer CareerWave ou machin. Et on peut passer vite une heure, deux heures, si un problème un peu plus que ça. La première fois, on a voulu envoyer des mails en HTML avec un joli design, pareil. Je pense que tout le monde a vécu ce truc-là où on teste un mail et puis dès qu'on le met en prod, sur Gmail, ça marche pas très bien. Du coup, est-ce que tu peux juste... parce que le fond rouge du bouton, il passe pas, machin. Bon, et c'est vite un moyen de passer beaucoup de temps. Et donc il y avait des fonctionnalités assez simples où je mettais un petit veto dessus en disant ok, d'habitude c'est simple, hein, comme la stack est pas prête, on n'a pas déjà fait, ou je le sens pas, ou moi je l'ai pas fait depuis un moment, je suis pas serein de la vitesse à laquelle je vais. Ok, est-ce qu'on peut pas trouver un autre système pour aller plus vite, ou ne pas le faire, on le met un peu de côté, et ok, tant pis, on n'aura pas ça. Donc c'était très intéressant d'avoir à faire ces compromis tout le long. Et ouais, c'était vraiment important d'avoir un service minimaliste et d'avoir un code propre, et je suis content du code qui est dans l'appli. J'ai pas de dette, les tests marchent, toutes les grandes fonctionnalités sont testées, il y a pas eu de bug depuis. Donc non, c'est très très content de l'expérience.
Je sais pas si je te l'ai dit, mais moi j'adore lire. Je lis beaucoup de livres et j'en ai beaucoup qui attendent que d'être lus sur ma bibliothèque. Et du coup, la petite question de la fin, j'avais envie de te demander, quel est le livre qui a eu le plus d'impact dans ta vie?
Oh.
Si tu dois en choisir qu'un seul.
Ça va être La semaine de 4 heures. Alors ce livre, il est particulier parce que je l'aime autant que je le déteste. Mais je dois avouer qu'il a changé ma vie clairement. Je l'ai lu quelques mois avant de monter Human Coders, c'était il y a un peu plus de 6 ans. Ça a changé toute la façon d'appréhender notre boîte. Je l'ai offert à mon associé juste après parce que je me suis dit ok, ça.
J'ai un message à lui faire passer.
Ouais, et puis il l'a pris tout de suite. C'est devenu une évidence. Lui, il était freelance, moi j'étais en CDI juste avant de monter la boîte. Il travaillait 4 jours par semaine et on s'est dit quand on monte la boîte, ok, c'est super cool si on arrive un jour à rebosser 4 jours par semaine. On a l'impression de gagner une certaine liberté en devenant entrepreneur. Et à force de digérer ce bouquin, on s'est dit non, mais en fait, 4 jours par semaine, c'est faisable, et
c'est trop.
C'est trop, c'est ça. Enfin, ça mène trop de contraintes et on peut être beaucoup plus libre que ça. Ça nous a amené à beaucoup expérimenter en fait. On a commencé par faire des itérations pour se libérer du temps. Donc on s'appelait une fois par semaine, on faisait un point sur comment on avait utilisé notre temps la semaine d'avant. On essayait de voir ce qui nous avait pris le plus de temps ou ce qui semblait nous en prendre le plus. On avait plutôt mis l'accent sur ce qui était pénible plutôt que sur ce qui prenait du temps en fait. Et on essayait de voir comment on pouvait résoudre ces trucs-là. Ok, est-ce qu'il n'y a pas un service qui peut me faire à ma place? Est-ce qu'on peut pas demander quelqu'un de nous aider? Est-ce que le comptable peut pas faire ce truc-là? On a fait ça quelques mois et il se passait rien. C'est qu'on travaillait toujours le même temps, on était juste plus efficace, et c'était très cool. Mais on travaillait pas moins. Et on s'est dit, ok, on va faire l'inverse. On va s'empêcher de travailler à certains moments et il faudra faire avec. Et on a commencé à faire des semaines off où une semaine par mois, on travaillait pas, on partait pas à l'autre bout du monde, on était un peu en astreinte parce qu'on n'était pas serein sur... La boîte était toute jeune, j'étais pas payé encore à ce moment-là, donc c'était chaud quand même. Première semaine, c'est une catastrophe, notre assistante nous appelle en panique le lundi matin, il y avait plein de trucs à traiter, bon, galère quoi, on avait des tonnes de mails dans notre boîte mail, on a dû mettre une semaine à rattraper tout l'amas de trucs qui s'est passé dans cette semaine-là. Et puis, on a travaillé par itération, et petit à petit, la boîte a arrivé à très bien tourner sans nous pendant une semaine. Du coup, on s'est dit, puisque ça marche pendant une semaine, on a qu'à prendre 2 semaines par mois. Et on a continué comme ça jusqu'à avoir, en étant un peu off tout le temps. Alors, c'est pas qu'on bosse pas, mais c'est qu'on bosse que si on veut, que quand on veut, d'où on veut. On n'a pas de to-do list, mais ça fait 4-5 ans que c'est comme ça. Donc il y a pas de to-do, il y a pas d'emploi du temps. Je sais pas du tout combien mon associé bosse en temps et inversement. Et c'est très agréable parce qu'on bosse à l'envie, on bosse si j'ai envie qu'on bosse tous les deux sur un truc, mais c'est à moi de motiver mon associé de dire ok, j'ai une idée, est-ce que ça te branche? Je pense qu'on ça peut nous aider sur tel truc, c'est pas très compliqué. Est-ce que t'es chaud? Ouais, ok. Ben on bosse là-dessus cette semaine. Et puis des fois, on peut passer 2 semaines sans rien faire dessus, c'est pas grave. Et c'est très agréable de bosser comme ça. Ouais. Et c'est la semaine de 4 heures qui m'a apporté ça. Et c'est des méthodes de travail qu'on a mis en place dès le début dans Merci Cookie, dès le premier article, on a posé ces bases-là. Ce qui me plaît pas dans la semaine de 4 heures, c'est il a beaucoup tendance à. Je pense qu'il s'est fâché à peu près avec tous les gens qui l'entourent. Parce que c'était au détriment des autres. Et ça me gêne beaucoup, et je rêve de trouver un bouquin équivalent où le fait qu'il gagne du temps n'est pas au détriment des autres. Chez Human Coders, on a vraiment pris soin à ce que tous les gens qui travaillent avec nous puissent avoir un mode de vie similaire, c'était hyper important. Il n'y a pas de salarié chez Human Coders, justement, parce que je pense qu'un salarié pourrait pas avoir cette liberté, et du coup, c'est pas compatible avec ce qu'on veut faire. Et il a vite tendance à déléguer à Madagascar, à foutre des gens un peu dans la merde si lui ça lui permet de gagner du temps et je kiffais pas cette idée là mais si on nommait cette partie là il y a des très bonnes techniques, une belle attitude et c'est je trouve très intéressant.
Ouais, je pense que la semaine de 4 heures a été un espèce de point de départ pour beaucoup de monde. Après la plus grande critique qui lui est faite, c'est de lui faire remarquer que lui-même ne travaille pas 4 heures. Mais je crois pas que ce soit l'esprit du livre. Hein. L'esprit du livre, c'est comment automatiser un business, en fait. C'est pas comment travailler 4 heures.
Moi, je l'ai pris comme une quête de liberté, en fait.
Il y a ça aussi, ouais. Il y a ça aussi, ouais.
Voilà. Globalement, je suis... Mais c'est dans ma vie perso, c'est pareil. Quel que soit le sujet, je suis toujours intéressé par les contraintes qui régissent ma vie. Et je suis toujours intéressé de savoir si elles sont vraiment pertinentes ou pas. Et si elles ne le sont pas, alors comment je peux m'en débarrasser? La semaine de 4 heures fait très bien ça sur la vie pro. Et c'est ça que je trouve intéressant. Est-ce que j'ai vraiment besoin de mettre mon réveil à 9h le matin pour Human Coders? Bah non, parce qu'en fait, on a rarement les clients au téléphone. Au pire, on peut les avoir l'après-midi. Enfin, ça servait à rien, en fait. C'est une contrainte qu'on s'était donnée au début. Et non, ça sert pas. Est-ce que ça sert que je bosse 5 jours par semaine? Bah non, en fait, quand je bosse 4 et que je suis bien en forme et qu'on est bien efficace, que Je fais pas des pauses tout le temps parce que je suis fatigué, mais finalement je bosse mieux en 4 jours qu'en 5 jours. Ok. Et en fait, ça posait plein de questions comme ça qui étaient hyper riches. Et est-ce que ça sert que je fasse ça à la main? Est-ce que ça sert qu'on lance ce nouveau projet? Et du coup, c'est devenu un mécanisme chez nous de chaque fois qu'on allait faire une nouvelle chose, de bien se poser les questions, la question des contraintes que ça amenait. Et il y a plein de choses qu'on n'a pas faites juste parce que on ne voulait pas assumer les contraintes que ça amenait derrière. Mais c'est des fois des trucs bêtes, hein, mais il y a des petits trucs qui peuvent être très pénibles. Je me souviens, la première tâche dont j'ai voulu me débarrasser quand on a commencé à vouloir gagner du temps, c'était les notes de frais en fin de mois. Je détestais les mettre dans le tableau Excel et les envoyer au comptable. À l'époque, je pense qu'on devait faire, allez, à tout péter, 5 notes de frais dans le mois. Donc il fallait que je prenne les 5 tickets que j'avais dans le porte-monnaie, les mettre dans un tableau Excel en remplissant les cases, et les envoyer au comptable. Je sais pas pourquoi, je faisais une fixette dessus, j'ai l'impression de passer ma vie à faire ce truc-là. Et c'était tellement un bonheur le jour où on a trouvé un service qui nous permet de plus faire ce truc-là, et j'ai l'impression d'avoir gagné un temps fou, et j'étais très heureux. Voilà. Et c'est pas toujours les tâches les plus longues qui sont forcément les plus pénibles. Et c'était vraiment très, très symbolique de se débarrasser de ce truc-là.
Un grand merci pour avoir écouté ce podcast jusqu'au bout. Si tu es un habitué, tu as pu remarquer que c'était un nouveau format que j'expérimente. Et du coup, j'aimerais bien avoir ton avis. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que ça te plaît? Est-ce que c'est un format que tu aimerais voir reproduit? Si oui, qui est-ce que tu aimerais que j'interviewe? Voilà, je te laisse m'envoyer du feedback sur benoît@artisandeveloppeur.com ou sur Twitter ou LinkedIn, tu me trouveras facilement. Et puis si tu as apprécié ce podcast, viens t'inscrire, il est disponible à la fois sur SoundCloud et sur iTunes. Et enfin, je t'invite à nous rejoindre et à rejoindre la communauté des artisans développeurs sur artisandeveloppeur.com. Bonne fin de journée.